Jack Sion, 78 ans, est jugé en appel à partir du 6 mai prochain pour le viol de trois femmes à qui il donnait des rendez-vous via des sites de rencontres en se faisant passer pour un séduisant trentenaire. Avant la première instance où il a été condamné à 8 ans de prison, l'affaire avait suscité un débat juridique inédit avec l'élargissement de la notion de viol par surprise. Accro aux sites et aux applications de rencontres, il attirait ses prétendantes avec des photos de mannequins usurpés, muscles mis à l'honneur, et il leur donnait rendez-vous à son domicile. Une fois sur place, il leur bandait immédiatement les yeux avant de passer à l'acte sexuel. Et ce n'est qu'une fois les ébats terminés que les jeunes femmes se rendaient compte de son apparence. Comment ce retraité a-t-il réussi à duper toutes ces femmes? Pourquoi cette affaire a-t-elle donné lieu à un important débat juridique? Je suis Pauline Revenat, vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Florine Sylvan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à BFMTV.com. Maître Mohamed Maktouf, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes l'avocat de deux des victimes qui accusent Jack Sion de viol. Nous reviendrons avec vous sur cette affaire tout au long du récit. Mais d'abord, Florine, retour sur ce long feuilleton judiciaire qui débute dans les Alpes-Maritimes.
En juin 2014, Laura, donc son prénom a été changé pour conserver son anonymat, a 33 ans. Elle fait défiler les profils de nombreux hommes sur le site de rencontre Tilt. La trentenaire sort d'une rupture compliquée, mais elle croit au prince charmant. Peut-être qu'elle le trouvera sur cette plateforme. Blasée, la jeune femme regarde les profils, mais aucun ne retient son attention, jusqu'au moment où ses yeux sont accrochés par une description. Anthony Laroche, 33 ans, 1m78, décorateur d'intérieur à Monaco, vivant à Nice. Les yeux bleus d'acier, une mâchoire carrée, des cheveux blonds parfaitement peignés. L'homme a tout du prince charmant.
Et rapidement, une relation amoureuse se crée par écran interposé, Florine.
À ce physique avantageux, Anthony Laroche ajoute un art de la discussion maîtrisé, couplé à une grande capacité d'écoute. Pendant 2 mois, cet homme appelle Laura tous les jours. Les deux trentenaires échangent sur l'art et sur d'autres sujets. Petit à petit, la jeune femme se laisse prendre dans cette relation.
Alors maître, on vient de le voir, une relation à distance s'est installée. Votre cliente a-t-elle eu des doutes sur cet Anthony Laroche?
Alors, les doutes ne sont pas arrivés dès le départ. Parce que quand on entame une relation, surtout dans l'état d'esprit de ma cliente, qui est la première victime dans ce dossier, elle a cru à l'histoire d'amour qu'elle vivait avec Anthony Laroche.
Dès le début.
Dès le début. Parce que, comme disait votre collègue, c'est des appels téléphoniques répétés, quotidiens, avec des mots doux, des mots d'amour, comme « ma chérie, j'ai envie de faire ma vie avec toi »,« je n'ai pas eu de chance dans ma vie, pour faire vrai »,« je ne suis pas tombé sur la bonne personne, c'est toi la femme de ma vie ». Donc, quand on est pris dans ce piège-là, on ne s'en sort pas.
Comment est-ce qu'il a réussi à la séduire à distance, votre client, seulement par les mots?
Principalement par les mots. Vous savez, c'est un débat plus général que le débat judiciaire. La séduction, c'est un jeu. La séduction de la femme, c'est pas seulement par les mots, mais par beaucoup d'autres choses qui sont maîtrisées par la femme. Les hommes et les femmes sont différents, il est vrai. Mais Anthony Laroche a réussi à frapper à la corde sensible de ma cliente, d'une de mes clientes, parce qu'elle sortait d'une relation difficile. Il ne voulait pas lui montrer qu'il était attiré par le sexe. Ça, c'est important pour une femme. Mm-hmm. Ce n'est pas une relation de passage ou, comme on dit vulgairement, pour l'hygiène sexuelle. C'est pour une relation durable. La femme est sensible à cet argument de taille. La relation téléphonique a duré plusieurs mois, comme le disait votre collègue. Ça a duré sur 3 mois. Donc, quand on s'appelle tous les jours, on s'accroche à l'homme. Alors, il nous fait rêver.
Une fois les doutes levés, Laura veut désormais passer un cap après ses appels téléphoniques, dans sa relation avec ce beau décorateur.
Oui, comme vous le disiez, après des mois d'appels et de SMS, la jeune femme veut enfin rencontrer son prince charmant. L'homme est d'accord, mais il veut que la rencontre soit exceptionnelle. Car comme le héros de 50 nuances degrés auquel il se compare, Anthony Laroche a des goûts particuliers. Pour le décorateur d'intérieur, la première rencontre entre lui et Laura doit prendre la forme d'un jeu sexuel. La jeune femme doit absolument avoir les yeux bandés. Autre condition, le rendez-vous doit absolument avoir lieu dans l'appartement niçois d'Anthony Laroche. Laura hésite, mais elle ne veut pas casser la dynamique de cette relation qu'elle idéalise. Elle finit par accepter. La jeune femme se rend dans le beau logement de son correspondant. Il est situé sur la célèbre promenade des Anglais à Nice. La porte s'ouvre sur un grand appartement plongé dans l'ombre. Pour se déplacer, Laura écoute la voix d'Anthony Laroche. Il l'attend dans la chambre. L'homme demande à sa conquête numérique de se déshabiller et de se bander les yeux. Arrivé dans la chambre, il lui attache les deux mains. Une relation sexuelle s'ensuit.
Et Florine, c'est à ce moment-là que Laura se rend compte de la supercherie.
Durant l'acte, déjà, Laura a des doutes sur le physique de son amant. Les soupçons se confirment alors lorsqu'Anthony Laroche autorise sa conquête à enlever son bandeau. Au bord du lit, pas de beau blond aux abdominaux dessinés, mais un homme dégarni, âgé de 68 ans, bedonnant, Jackson. Laura est alors prise de nausées. Elle comprend que le beau décorateur d'intérieur n'a jamais existé. Ni une ni deux, elle quitte l'appartement sous le choc. En larmes, elle décide d'aller porter plainte.
Alors maître, lorsque votre cliente se présente à la gendarmerie pour déposer plainte, elle est confrontée au refus des militaires de prendre sa plainte. Pourquoi ?
Alors, si vous permettez, je voudrais revenir sur le commentaire de Florine concernant le rendez-vous. C'est un fameux rendez-vous choisi par le suspect, Anthony Laroche, c'est son pseudonyme, parce qu'il voulait que ce soit exceptionnel pour marquer l'esprit de sa proie, puisqu'il lui a donné rendez-vous le 21 juin, le jour de la fête de la musique, créée par Jack Lang.
Oui.
Et aussi le jour du premier jour, le premier jour de l'été. Il y a l'histoire de jeux sexuels, comme dans le roman suivi d'un film 50 nuances de gré, pour une rencontre exceptionnelle. Je précise que ma cliente, qui était en contact avec Anthony Laroche, a insisté pour que leur premier rendez-vous ait lieu dans un lieu public, dans un café, restaurant, etc., en présence d'autres personnes. Anthony Laroche refuse. Il dit non, il faut que ce soit quelque chose d'exceptionnel. Il a marqué la date du 21 juin, comme je le disais, et la rencontre s'est faite. Lorsque ma cliente s'est rendue compte que elle a été blousée, trompée dans sa chair et dans son esprit, elle décide de porter plainte le lendemain à la gendarmerie de son quartier.
Et alors, pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas la plainte ?
Alors, ce n'était pas des gendarmes, c'était un gendarme.
Un gendarme.
Je ne peux pas répondre à la place de ce gendarme. C'est très ancien, c'est la date de juillet 2014. Mais je peux vous dire, en tant qu'avocat des parties civiles, qu'il n'avait pas le droit à ce gendarme. Puisque l'article 15.3 du Code de procédure pénale précise que la police et la gendarmerie est obligée de prendre la plainte de celui qui se présente au commissariat ou à la gendarmerie.
Mais qu'est-ce qu'il
c'est
a répondu
loi.
À votre cliente quand elle...
Il lui a dit, vous pouvez rentrer chez vous, il n'y a pas de viol, ça n'ira pas loin. Il n'avait pas le droit. Je dois préciser également que ce n'est pas un gendarme ou un policier, avec tout le respect que j'ai pour les forces de l'ordre, de décider s'il y a viol ou pas viol. S'il y a infraction ou pas infraction, c'est le procureur qui est compétent.
Absolument.
La preuve venait, lorsque ma cliente, qui était dégoûtée par cette attitude publique, je dirais, d'un gendarme, elle se présente à mon cabinet, je la crois tout de suite. Je lui fais confiance et je dépose plainte auprès du procureur de la République de Nice, qui immédiatement comprend l'affaire.
Et
il ouvre une information judiciaire, il demande à la police de mettre en garde à vue Anthony Laroche,
on y vient.
Le suspect, et la procédure s'ouvre.
Une enquête est donc ouverte sur la personne, en la personne de Jackson, et les enquêteurs, Florine, découvrent que plusieurs femmes ont été confrontées à cet homme.
Oui, derrière ce faux profil, Jackson prend contact avec près de 200 femmes avec qui il échange durant plusieurs jours. Parmi elles, 24 sont identifiées comme s'étant rendues à son domicile. Appartement dans le noir, yeux bandés. Face aux enquêteurs, elle relate le même scénario que Laura. Durant des perquisitions dans son appartement, des dizaines de photos de femmes dénudées sur le lit de l'accusé seront retrouvés. En garde à vue, face au juge d'instruction et sur le banc des accusés, le septuagénaire reste campé sur ses positions. Il assure qu'il n'a rien fait d'illégal et que les femmes étaient consentantes. Une défense qui a un temps fonctionné.
Maître, avant d'arriver à la condamnation en première instance pour viol sur trois femmes, les victimes ont dû s'armer de patience. Est-ce que vous pouvez nous raconter toutes les démarches que vous avez entreprises avec ces femmes pour que Jackson soit finalement jugé?
Absolument, Pauline. C'est le parcours du combattant. Parce que des années de procédure pour une victime, c'est insupportable. Je ne dis pas que c'est la faute des juges, je ne dis pas que c'est la faute de la justice, mais malheureusement, il y a eu des actes de procédure qui ont pris du temps. C'est normal que la justice prenne son temps pour juger, parce qu'il faut qu'elle ne soit pas expéditive. Mais cela dit, mes clientes, les victimes, ont subi une procédure qui a duré des années, d'abord par la plainte auprès des services de police, après l'audition dans le cadre de l'instruction judiciaire, après les procédures qui ont suivi, je les précise rapidement, c'est d'abord une ordonnance de mise en accusation rendue par le premier juge d'instruction pour viol par surprise sur plusieurs victimes. Le mise en examen fait appel, ça passe devant la cour d'appel de Aix-en-Provence, qui casse l'ordonnance de mise en accusation. Nous faisons un pourvoi en cassation pour mes clientes, je le fais personnellement, par l'intermédiaire d'un confrère à Paris, et la cour de cassation rend un arrêt de principe. La première fois dans l'histoire judiciaire française, dans la chronique judiciaire, que le viol par surprise est défini par la Cour de cassation.
C'est
un élément fort, tellement fort que la Cour de cassation a décidé, ce qui est rare dans ma carrière d'avocat, que la Cour ordonne la publication de son arrêt.
Alors donc il y a eu un élargissement de la notion de viol par surprise, ce qui a permis la condamnation de Jackson. Est-ce que vous pouvez revenir en détail sur cet élargissement et cette notion juridique ?
Alors, je ne dirais pas élargissement, parce que à partir de rien, on ne peut pas élargir. Il n'y avait pas de définition du viol. Je rappelle à la mémoire du public qui nous écoute qu'il y a eu seulement une condamnation pour viol par surprise. Je rappelle laquelle, ça fait 30 ans à peu près, dans une région de France, où il y a un homme qui s'était glissé dans le lit d'une femme en se faisant passer pour son mari. Elle dormait, elle s'est réveillée, elle croyait que c'était son mari, elle fait l'amour avec lui. Et après les ébats, elle se rend compte que ce n'était pas son mari, chéri, qu'elle a épousé à la mairie. Donc elle dépose plainte, il est condamné pour viol par surprise.
Une seule fois.
La Cour de cassation est venue combler ce vide. Elle a défini le principe du viol par surprise. Je rappelle que le viol comporte quatre éléments. C'est tout acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise. La surprise, c'est à la fin. On l'utilisait pas beaucoup. En général, on viole une femme parce que la femme se débat, se défend. Elle veut pas être violée. En général, c'est sous la menace d'un couteau. Ça a été plaidé, j'ai une victime qui a été menacée d'un couteau pour être violée. On frappe une femme, ça a été jugé aussi dans ma carrière, j'étais pour la victime. Elle avait le visage tuméfié. Il n'y a pas que la violence, il y a aussi la menace ou la surprise. Donc la définition de la surprise est venue pour la première fois donner un exemple de ce qui s'est passé pour mes clientes, c'est le stratagème auquel on soumet la victime pour arriver à ses fins. Alors, le stratagème, ça a commencé par la fraude sur Internet, en faisant passer...
Le faux profil,
en se faisant passer pour un mannequin américain d'une marque de cigarettes célèbre que je ne citerai pas. Et également, avec l'âge, 37 ans au lieu de 68 ans, c'est important, 37 ans, on est à la fleur de l'âge, on peut se marier, on peut faire des enfants, etc. Donc il y a le faux profil, il y a le mensonge sur la profession Monaco, en croyant que la femme va rêver parce qu'il travaille à Monaco. Moi, je connais Monaco parce que je suis du barreau de Nice, mais Monaco, c'est un grand pays, c'est un beau pays, petit par la taille, mais qui a une renommée internationale, mais en croyant que la femme va s'attacher à du matériel, on va dire « je travaille comme décorateur d'intérieur à Monaco ». Ce n'est pas le cas, c'est faux, ce n'est pas vrai. Donc, faux profil d'abord, et le mensonge dans la relation. Le stratagème, c'est de téléphoner pendant trois mois, tous les jours, à ses victimes, de leur faire croire à une relation sentimentale, alors que ce n'est pas le cas, c'était pour du sexe. Et voilà, le stratagème, c'est ça.
Alors, maître, qu'est-ce que vous espérez pour cet appel et dans quel esprit est votre cliente pour ce nouveau rendez-vous judiciaire ?
Alors, mes clientes sont dans un état d'esprit partagé. D'abord, elles appréhendent cette procédure, ce procès qui s'ouvre devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes à Nice le 6 mai pour plusieurs jours, jusqu'au 15 mai. 9 jours d'audience, avec des jours fériés, c'est vrai, mais c'est long. Appréhende de rencontrer, de revoir, de s'affronter à l'accusé. Et par ailleurs, elles ont, dans le cadre de ce procès, dans un état d'esprit d'espoir. Ah, l'espoir, c'est qu'elles soient reconnues comme victimes, parce que c'est important. L'espoir que justice soit faite à elles et à ce qu'elles ont vécu, en reconnaissant qu'elles ont été effectivement victimes d'un viol par surprise.
Et on le rappelle, en première instance, Jackson a été condamné à...
Absolument. 8 ans de réclusion criminelle. Il a fait appel, et c'est pour ça que ça passe devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes à Nice, qui a été désignée par la cour de cassation, je le rappelle.
Alors on suivra tout ça avec vous. Merci Maître Maktouf d'avoir été avec nous. Merci Florine. Voilà pour cet épisode d'Affaires Suivantes, le podcast inédit. Tous nos épisodes sont à retrouver sur bfmtv.com ainsi que sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Je vous dis à la semaine prochaine.